Émission Dans Jase, ton émission du midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Aujourd'hui, Victor Henriquez en remplacement de Anthony Iaccherini dans le caucus. On a également des très bons invités, Alicia Despins, qui vont venir parler de Bruno Marchand avec ses fermetures de patinoires qu'il veut faire payer par les centres de services scolaires et ses feux de poêle à bois. Bref, le conseil municipal d'hier. Donc, on va parler de ceci avec Alicia Despins. Et également, grosse annonce en santé pour ouvrir des places, notamment pour les patients vulnérables. C'est ce qu'on vous offre dans la première heure parce qu'on va parler avec Paul Brunet, qui est le directeur général de la Commission pour les malades. Donc, c'est notre première heure à Boulevard 102.1. Mais avant, Pascal, c'est important, il faut absolument que je fasse une chose pour nos auditeurs. Il faut que je prenne une bouchée de la poutine Ashton pour la Poutine Week. Fromage boursin, bacon, bœuf effiloché, le fromage en grain d'Ashton, les frites.
Je dois dire que tu es un excellent ami, tu es plus qu'un collègue, puis à partir de maintenant, je peux le qualifier parce que tu m'as laissé goûter à ta poutine avant même ta première bouchée. Pis ça, dans un couple, des fois, c'est même c'est-tu pas bon? Adéquat.
Bon, là, guys, c'est fort simple, c'est la Poutine Week. Il faut voter pour la meilleure poutine en ville. Il faut aller goûter les poutines et c'est Ashton que ça se passe. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
J'ai une question pour toi. Ça fait la file, ces temps-ci, chez Ashton. Oui. C'est un énorme engouement pour cette poutine-là. Est-ce que tu le comprends, l'engouement?
Moi, je le comprends définitivement. Le fromage boursin, honnêtement, il y a plusieurs gens qui disent « Ah, ouais, le fromage boursin, c'est écœurant, ça ajoute un petit goût salé à la poutine qui est extraordinaire. » Puis le bacon est cuit à la perfection, ça ne veut pas trop cuit. Et moi, j'aime pas ça, le bacon, quand tu croques de nez, il faut que tu fasses
« Ah, tu casses les dents.
Le bacon est parfait. Non, c'est un mix extraordinaire. Ashton a gagné la Poutine Week l'an passé et je prédis que cette année, il le gagne encore avec ce chef-d'œuvre culinaire.
Mais c'est vraiment du jeu que Ashton participe à la Poutine Week?
Ashton n'avait pas toujours gagné.
Moi, je pense que c'est malhonnête de les faire participer. Ils ont toujours
C'est sûr que c'est la meilleure poutine. C'est la meilleure poutine à Québec et maintenant au Québec parce qu'Ashton c'est expansionné.
Hey, félicitations pour ça.
Ben oui.
Je pense que les gens de Montréal vivent une genre de petite collision personnelle envers leur façon de voir la poutine. Mais Ashton, c'est une poutine qui est différente. Moi, je l'ai toujours dit. T'as le goût d'une Ashton ou t'as le goût d'une poutine. Ashton, c'est comme quelque chose en soi.
Exactement. Puis mes cousines qui habitent à Montréal, disons, on descend à Québec des fois juste pour manger une poutine Ashton. Maintenant, elles peuvent en manger à Montréal. Fait que c'est bien parfait. Mais m'énervaient ces deux cousines. Là, restent à Montréal.
Tu veux bien les accueillir.
Non, ça, c'est un running gag avec moi et ma cousine Stéphanie où je savais ce quel bouton peser quand elle était jeune. Ouf, je savais comment la faire crier.
Mais ça m'a quand même fait vraiment. Mais dis de même.
Fait qu'on a toujours resté avec un genre de. Petite relation sympathique. 418-971-1021, textez-nous. Êtes-vous allé goûter la poutine Ashton? Oui ou non? Comment vous l'avez trouvé? Moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas plus compliqué que cela. Sur le web blvd.fm, ce sera les meilleurs moments de l'émission, notamment le caucus avec Victor Henriquez qui va s'y retrouver également sur une façon de nous écouter avec la web radio. BLVD 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-les. On le sait, le midi, là, vous allez au Ashton manger une petite poutine. Là. Hop! Vous partez l'application, un petit écouteur dans l'oreille. Vous nous entendez. Twitch.tv/BLVD/FM si vous voulez venir voir cette magnifique poutine. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que il y a nos grandes entrevues qui s'y retrouvent. Il y a également nos podcasts. Donc, juste cette semaine, vous pouvez aller consulter justement l'entrevue qu'on a faite avec Bernard Drainville qui fait encore brasser la petite sauce tranquille qu'il y avait à la CAQ. Ben, lui, il a décidé qu'il sortait le grand fouet qui faisait brasser ça. On va vous faire entendre ceci tout à l'heure. C'est des commentaires qu'il a donnés à la sortie de la période de questions à l'Assemblée nationale il y a à peu près une dizaine de minutes. Et Boba et Christine Fréchette passent dans le tordeur, pas à peu près. Mais avant de jaser de ça, Pascal CV, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Salut, Nazi. On en parle dans pas mal tous les journaux qu'on connaît. Poursuite de 400 000 $ contre le maire de Québec, contre Bruno Marchand. Il a été accusé l'année passée d'avoir fait un salut nazi en plein conseil municipal. C'est la citoyenne Vicky Lépine qui a mis ses menaces à exécution parce qu'elle avait dit qu'elle allait faire une poursuite contre le maire de Québec et c'est fait. Donc, elle intente une poursuite de 400 000 $ Ça a été rapporté par Le Soleil d'abord, mais c'est confirmé par un peu tout le monde. On a dit c'est en commentaire qu'on va répondre à cette nouvelle-là parce que c'est judiciarisé. C'est ça qu'a répondu le cabinet du maire Marchand en fin de matinée aujourd'hui. Donc, 4 février 2025, un an jour pour jour. Mme Lépine a levé le bras en posant une question en plein conseil municipal. Puis le maire Marchand l'a accusé d'avoir fait un salut nazi. C'est ça qui s'était passé en pleine salle. Donc, la principale intéressée a toujours nié ça en disant « j'ai pas fait de salut nazi, que c'est ça, je comprends pas pourquoi on m'accuse de tout ça ». Et pour le maire Marchand, elle s'estime non pardonnée de tout ça. Dans le sens, elle n'a pas été pardonnée, d'après elle, avec des excuses sincères de la part du maire Marchand. Elle a estimé qu'il ne s'agissait pas d'excuses sincères et réparatrices. Alors, c'est pourquoi elle intente une poursuite envers Bruno Marchand. Je vous rappelle de 400 000 $. Tu parles du fait que ça brasse avec Bernard Drainville, ben c'est une chose, parce que là, on essaie de faire trancher Mme Fréchette sur la question du troisième lien, qui est un enjeu important pour Québec et pour la province. Assurément, lui dénonce l'ambivalence de Fréchette là-dessus, qui tarde à trancher. Et c'est mal vu de la part de Bernard Drainville en disant non, on devrait être clair sur ce qu'on pense dès maintenant. Christine Fréchette a tweeté dans les dernières heures. Elle dit « Le dossier du troisième lien est trop important pour être abordé avec émotivité. » Il doit être traité avec rigueur. J'entends les préoccupations des citoyens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Je veux les rassurer, je ne laisserai pas tomber ces gens-là. Il y a des enjeux de circulation qui doivent être adressés. Je poursuis actuellement mes discussions avec les acteurs du milieu économique et municipal et je ferai connaître ma position au cours des prochains jours. Alors, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui qu'on va avoir la position, encore une fois, de Mme Fréchette. Il y a un temps de réflexion sur le troisième lien, oui, mais c'est sûr qu'on parle encore de savoir si le tracé sera à l'ouest, à l'est, où est-ce qu'il a été vu pour la première fois. Puis ça, on en jase encore plus du fait que le pont de l'île d'Orléans, en ce moment, est en pleine construction.
À cet effet-là, Charles Milliard réagit également. Là, son attaché politique m'a envoyé, puis ils sont envoyé à plein de monde, là, la déclaration de Charles Milliard. Mm-hmm. Alors, en gros, ce qu'il dit, puis je vous lis la fin, « Ma priorité demeure de redresser les finances de l'État, mais je ne jouerai pas à l'autruche sur la nécessité du troisième lien comme investissement pour la mobilité de la région de la Capitale-Nationale de Lévis et le développement économique de l'Est du Québec. Nous devons poursuivre les discussions afin d'établir un plan et un échéancier réaliste financièrement. » Donc, Charles Milliard se positionne pro-troisième lien. Je pense que ça peut être très pertinent ici dans la région de Québec pour le Parti libéral.
Énorme transaction à Québec aux Américains. C'est un fleuron du Québec qui a été vendu pour 2 milliards de dollars. C'est la multinationale technologique EDFI. C'est à Sainte-Foy. Elle vient d'être vendue en totalité à des intérêts américains. Alors, c'est ce qu'on apprenait. L'acquéreur ESAB Corporation, c'est une société du New Hampshire. Elle est inscrite à la Bourse de New York et donc elle avale l'entreprise au complet. C'est un millier d'employés, dont 450 ici à Québec. Et jusqu'à maintenant, ben, c'était bien connu que cette entreprise était fort implantée ici. Et Martin Thériault s'est prononcé sur tout ça. Il a écrit une longue publication Facebook dans les dernières minutes, je dirais peut-être la dernière demi-heure. C'était un des propriétaires. Il dit que c'était avec beaucoup d'émotion que cette vente-là a été faite. Un fleuron à l'étranger dit « Je suis d'accord, ça peut amener des critiques, mais il faut comprendre la game », il met en parenthèse, « pour porter un vrai jugement. Les priorités de vie des fondateurs et exécutifs entrent aussi en jeu. J'ai essayé de la garder québécoise, canadienne, mais en vain. » Alors, il dit qu'il a travaillé pour que ça reste ici, mais que ça n'a pas fonctionné. Par contre, EDFI va continuer sa croissance à Québec. Il dit qu'il ne faut pas être inquiet.
Au sport, 19h ce soir, c'est le Canadien de Montréal qui affronte les Jets de Winnipeg. C'est le dernier match du CH avant la pause olympique, donc en environ 3 semaines. Nick Suzuki sera sur la patinoire. On sait qu'il va représenter Équipe Canada. 19h ce soir, manquez pas le match Canadien-Jets, la dernière fois en 3 semaines que vous pouvez voir vos Canadiens. À l'instant même, on amorce le caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Victor Henriquez. Aujourd'hui, en remplacement d'Antonin Iaccarini. Mon ami Victor, comment vas-tu?
Ça va très bien, mais avoir su que tu aurais de la poutine en studio, Jeff, je serais monté à Québec.
Ben, c'est ça, je pense. La bonne poutine Ashton, en plus, Victor. L'aimes-tu, la poutine Ashton, toi qui es à Montréal?
J'adore la poutine Ashton. D'ailleurs, j'allais à Québec juste pour ça, à une époque.
Non!
Maintenant, je peux aller à Mirabel. Donc, je suis bien heureux.
Ah. C'est vrai que tu faisais ça? Goûter. C'est vrai que tu faisais ça comme la cousine à Jeff? Ah ouais, hein?
Moi, je faisais incroyable. Ça. Puis j'en avais une autre à Québec qui était très chère à mon cœur. Qui l'est encore. C'est celle de chez Hector. Alors, oui. Je salue les gens de chez Hector, celle-là aussi, elle est bien importante à mon cœur, mais deux poutines, c'est jamais trop, hein? Une pour l'aller, une pour le retour. C'est parfait.
Exactement, c'est parfait, sans l'ombre d'un doute. C'est les propriétaires d'ici de Québec qui ont racheté Ashton, les propriétaires qui avaient le casse-croûte Tiwi à Saint-Raymond. Et ça, on est très contents de ça. C'est une belle fierté pour nous d'avoir pu conserver Ashton avec des propriétaires qui viennent de la belle capitale nationale. Bon, Victor, si t'es en amour avec la poutine Ashton, moi aussi, je suis en amour. Il y a deux personnes qui sont pas en amour à l'heure actuelle et c'est Marois Risquet et Geneviève Hines. À coup de sortie dans les médias, on fait couler les documents judiciaires. Ouf, je ne sais pas quoi penser de cette saga-là, Victor. Toi qui es un grand sage, explique-moi.
Eh hey, mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir t'expliquer le désamour, mais on va s'entendre sur une chose. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu le reflet de la raison pour laquelle les libéraux se sont retrouvés dans la crise dans laquelle ils se sont trouvés. Parce que, vous savez, une tension aussi forte n'apparaît pas seulement le jour du congédiement, le 17 novembre dernier. Cette tension-là, elle se crée, elle se développe avec le temps. Je pense que du côté de Mme Risquet, son rôle était peut-être mal discuté avec son chef. Mme Risquet se voyait comme la chef parlementaire, le chef la voyait comme sa représentante au Parlement. Et du côté de Mme Hens, ben, il semblerait qu'elle ne considérait pas que ses ordres devaient venir de Mme Risquet, mais bien de M. Rodriguez. Et cette confusion-là nous amène là, mais je trouve ça super intéressant ce que tu amènes, Jeff, parce que il y a tout un narratif qui a été construit dans les derniers jours. C'est important que les gens qui suivent l'actualité le sachent. Hein. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Le fait que la défense de Mme Risquet soit publiée dans les journaux le jour avant la rentrée parlementaire, c'est la meilleure façon d'être sûr que tu sois le centre de l'attention le lendemain. Mme Risquet est apparue deux fois hier devant les médias. C'est une de ses grandes forces de savoir jouer avec la machine médiatique. Elle le fait à merveille. Elle l'a très bien réussi. Aujourd'hui, Geneviève Hens réplique. Et la différence, c'est que Geneviève Hens réplique, mais elle ne se présentera pas devant les caméras. Donc, elle aura cette réplique dans certains médias, mais elle n'aura pas son visage à la caméra, dire ce que Mme Risquet a dit hier. Là-dessus, elle est une coche en arrière. Mais on ne saura pas. Moi, je pense qu'on ne saura jamais. Tant que les tribunaux ne seront pas passés dans les différents faits, on ne saura pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. Là, les versions sont très contradictoires de l'une à l'autre. Et c'est peut-être même perceptuel de l'une à l'autre, les différences.
Il y a des gens qui se demandaient si c'était vraiment de nos affaires, si on avait à avoir un peu la lumière dans cette histoire-là. Bien, pour la majorité des gens, je pense que la réponse, c'est oui, parce que ça parle un peu du parti, de la façon dont la politique est arrangée, non?
Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. En même temps, tu vois, c'est aussi quelque chose qui peut déranger fortement, notamment les libéraux. C'est le genre de situation qui, historiquement, au Parti libéral, se serait réglée à l'interne. Parce que moi, il me reste toujours cette grande question. Hein. Puis je vous avais appelé un peu puriste de la politique, mais je trouve que la politique, c'est un sport d'équipe. Puis quand tu joues en équipe, la question qui me reste, c'est pourquoi Marois Risquet n'a pas visé ni le président du parti, ni les officiers du parti, pas de whip, pas de présidente de caucus et surtout pas son chef. Si vraiment tu joues en équipe, il y a au moins quelqu'un vers qui tu te tournes, en qui tu as confiance dans ta gang, pour discuter des décisions que tu vas prendre, puis dire « Hey, donne-moi donc un ton de scène. Je veux savoir ce que tu penses de ça. » Il y aurait eu une discussion. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle n'a pas informé personne. Elle est arrivée à la rencontre avec son chef, avec un avocat. Donc, elle a voulu passer un message. Et le message, c'était « C'est moi la chef parlementaire. C'est mon staff. À l'Assemblée, c'est moi qui décide. Et ça va se passer comme ça. » Et ça, je suis pas sûr que ça reflète l'esprit d'équipe. Et ça ne reflète surtout pas ce qu'il faut faire pour régler les problèmes en famille. C'est le gros problème des libéraux parce que, je ne sais pas, je vous invite d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, à lire l'article de l'actualité avec Pablo Rodriguez, où est-ce qu'il dit littéralement « J'ai été victime d'un putsch ». Alors encore aujourd'hui, il y a des choses inexpliquées, puis j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va savoir la vérité parce que c'est extrêmement nébuleux tout ça.
Non, en effet. Puis je termine sur le dossier Risquet-Hines avec cette question-là. Victor, il y a deux courants de pensée présentement. Toi et Antonine, vous représentez le courant de pensée de « Elle aurait dû jouer en équipe ». Puis il y a un autre courant de pensée de gens qui disaient que c'était tellement corrompu qu'elle n'avait pas le choix d'agir seule. Mais dans ce qui sort dans les médias, le président du Parti libéral est entaché dans rien. Donc, je pense que c'est là qu'elle aurait pu avoir sa pogne. Je me trompe-tu?
Ben, vous savez, il y a une chose, hein, parce que Mme Risquet, hier, a dit « J'ai jamais voulu être exclue du Parti libéral ». Si le Parti libéral était si corrompu que ça, elle serait la première à avoir voulu partir. Si tu es une incorruptible et que tu considères que ton parti est bourré de corrompus, tu ne restes pas dans ce parti-là. Tu quittes le parti et tu joues toute seule. Le problème, c'est qu'elle nous dit « je suis libéral », mais de l'autre côté, elle fait confiance à personne dans cette gang-là. Et moi, c'est là où j'ai un problème. Parce que la confiance, elle doit se jouer là-dessus. Si tu ne te sens pas membre d'une famille, que tu considères que dans ta famille, c'est toutes des pourris, là, tu vas sortir de la famille, tu vas peut-être vouloir même changer de nom de famille. Mais dans ce cas-ci, elle dit « je suis libéral », mais elle joue avec personne de son équipe.
Ouais,
ça, pour moi, c'est démonstratif du fait qu'il y a peut-être plus une façon de faire de la politique que vraiment un processus très, comment dire, réfléchi ou stratégique.
Vous en pensez quoi? 418-971-1021, écrivez-nous justement ce que vous pensez. Pensez-vous que Marois Risquier a bien agi ou mal agi en agissant seul?
Tu parles du fait que ça pourrait être fait à l'interne sans que ça sorte et tout ça, mais j'ai peut-être l'impression que ça nous permet de faire un petit ménage politique. Tu sais, Charles Milliard qui s'installe aussi au sein du Parti libéral, qui est venu en entrevue avec nous, je lui avais posé la question à savoir, bon, ça sera qui et quoi son équipe? Est-ce que c'est des gens de l'interne ou va aller un peu à l'extérieur? Sans nous dire exactement ça, moi, ce que j'ai perçu, c'est oui, il y aura des gens de l'extérieur parce qu'on n'a pas envie que la façon de faire soit un peu gangrénée. C'est vraiment la lecture que j'ai eue en deux lignes. Peut-être que ça pourrait permettre au Parti libéral de refaire un ménage du printemps, tiens, puis peut-être vraiment revamper l'image du dit parti, Victor.
Ben oui, mais tout ça part de la prémisse que si tout ça s'était géré adéquatement en novembre, ben l'image du parti ne serait pas aussi attachée qu'elle l'est, parce que, je veux dire, cette démonstration de corruption, moi, je veux juste revenir sur les faits, hein, puis je ne les connais pas encore au complet. Moi, factuellement parlant, ce qui m'a décidé à dire qu'il y avait un problème, c'est la journée chez M. Cabral.
Ouais.
Encore là, M. Cabral, est-ce qu'il a décidé lui-même de rembourser son membre? Est-ce qu'il a dit à tout le monde qu'il allait rembourser ses gens? Ça, on ne le saura pas nécessairement tout de suite. Mais à part ça, tout ce qu'on a eu, c'est des rumeurs. Tout ce qu'on a eu, c'est des allégations non fondées. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, attention, on va savoir dans 2-3 ans ce qui s'est vraiment passé. Puis attention aussi à Charles Millard de ne pas donner l'impression que le parti est coupable avant même de savoir les faits. Parce qu'il vivra lui aussi avec la réputation de ce parti-là. Alors ça, là-dessus, je serais extrêmement prudent, moi, à sa place. Là-dedans, il y a un grand perdant. Il s'appelle Pablo Rodriguez. Et Pablo Rodriguez, il a fait 24 années de politique, c'est la première fois qu'il lui arrivait quelque chose comme ça. Il en parle dans l'actualité. Puis moi, j'ai tendance à croire la bonne foi des gens en général, quel que soit le parti, vous savez. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que la corruption, ça gangrène la politique québécoise. Je pense que la corruption au Québec, oui, il y a des gens, ça a déjà existé. Ça peut encore exister. Il faut faire très attention dans le trop de contrôle notamment. Mais je pense que dans la très, 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 très grande majorité de tous les partis politiques, les gens font de la politique de façon clean et pour les bonnes raisons. Alors, je pense qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on on lance de la boîte sur les autres. Et c'est ça qui s'est passé au Parti libéral. C'est que d'habitude, la boîte, elle ne se lance pas entre eux. Et pourtant, au PQ, ça, on avait vu ça dans les années 90. Donc moi, ça me porte à dire, des fois, le Parti libéral est devenu ce que le PQ était avant. Et aujourd'hui, le PQ a la discipline que les libéraux avaient avant. Et ça prend beaucoup de solidarité, mais ça prend aussi de se dire, ben, à un moment donné, on doit faire les choses entre nous et on doit s'assurer surtout de faire les choses sur les faits et non pas sur de la petite politique ou des chicanes internes.
Pour rappel, vous êtes dans le caucus de midi 5 environ à 12h30 du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 de l'émission On en jase. Aujourd'hui, c'est Victor Henriquez en remplacement d'Antonine Iacarini. Victor, parlons des vraies affaires. La chicane à CAQ. La course à la chefferie. Moi, ça me passionne. On est dans un Québec-Montréal, puis moi, je l'aime, ma capitale. Et voici ce que Bernard Drinville avait à dire concernant le fait qu'on ne fera pas d'annonce, finalement, sur le troisième lien avant la fin de la course à la chefferie.
Nous avons tous les deux fait campagne sur l'engagement de se donner un troisième lien entre Québec et Lévis. Être à la CAQ, c'est être pour le troisième lien. Par la suite, on a eu des présentations du projet, tant au caucus qu'en comité ministériel qu'au Conseil des ministres. Nous avons tenu des consultations publiques et le gouvernement a décidé, il a retenu un corridor.
Être à la CAQ, c'est être pour un troisième lien. On dirait que je suis pas sûr de cette affirmation-là, moi. De la façon qu'on gère le dossier depuis 8 ans.
Ah, et puis de la façon qu'on gère le dossier depuis 3 jours, non plus. Ouais. Hein. Mais il y a une chose. Et M. Legault est sorti ce matin pour dire qu'à la CAQ, on est tous pour le troisième lien. Je pense que là, le premier ministre essaie de remettre tout le monde au bon endroit. Mme Fréchette, elle réfléchit, mais moi je comprends sa réflexion. Puis Je ne serai pas le gars de Montréal qui va se prononcer sur la viabilité du troisième lien. Je ne le sais pas. Je ne suis pas spécialiste ni en transport, ni en mobilité. Puis je ne suis surtout pas pogné dans le trafic de la rive sud puis de Québec à tous les jours. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. Il y a une chose, par exemple, c'est que dans ce dossier du troisième lien, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore entendu un projet suffisamment solidement ficelé pour dire oui, je suis pour ça, puis il faut le faire tout de suite. C'est clair. Alors, tu sais, on est encore en train de carotter dans la roche à Sillery. On a un tracé qui, je m'excuse, j'ai de la misère à l'imaginer, ce tracé-là. On a des études qui disent certaines choses ne sont pas complètes. On n'a pas encore le panorama complet. Et surtout, on ne sait pas combien ça va coûter et comment on va le financer. Donc, je ne peux pas reprocher à Mme Fréchette de réfléchir, mais je pense que là, il y a une tendance qui se dessine. Et M. Drainville, dans sa capacité à créer des formules, a une très bonne formule. Quand tu es à la CAQ, tu es pour le troisième lien. Puis je serais allé plus loin à sa place. J'aurais dit, quand tu es à la CAQ, tu es pour la laïcité, tu es pour le troisième lien. Et j'aurais décliné les éléments de base. Ça lui permettrait de mettre ses piliers. Là-dessus, il marque des points aujourd'hui.
Je trouve ça intéressant de t'entendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on est pas mal rendu dans un enjeu un petit peu plus émotif. On trouve qu'on perd du temps, qu'on n'a pas travaillé sur le dit projet quand c'était le moment de le faire avancer, du moins de sortir quelque chose d'assez concret. Par contre, hier, j'ai éclaté de rire parce que il y a quelqu'un qui a commenté la politique qui m'a remis à la base de ce qui se passe en ce moment, puis je m'en suis voulu de ne pas avoir passé de commentaire ou que ça ne me soit pas venu en tête. La vraie base en ce moment, c'est qu'il n'y a personne qui travaille pour nous en politique. On travaille à se trouver un chef. On se travaille à refonder un parti. On travaille à faire des enquêtes à l'interne sur comment ça s'est passé lors de la course à la chefferie d'un puis d'un tel. On travaille... Mais quel parti, là, clairement, en ce moment, travaille sur nos enjeux quotidiens puis nous présente chaque jour de façon hebdomadaire des choses pour lesquelles on aimerait entendre chacun des partis se prononcer?
Oh boy, c'est criant de vérité tout ça, Pascal. C'est vrai, en ce moment, c'est une situation particulière. Puis je vais amener une petite analyse là-dessus parce qu'on a tendance à oublier que ces fameuses élections à date fixe, c'est quelque chose d'assez nouveau en passant. Rappelons-nous que c'est seulement la deuxième élection à date fixe qu'on fait. Avant, on choisissait les élections, les premiers nés choisissaient quand est-ce qu'ils déclenchaient. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'effet pervers de cette élection à date fixe. Moi, ce que je sens, parce que je travaille dans relations gouvernementales notamment, ce que je sens, c'est qu'il y a des ralentissements naturels, et pas juste des élus, mais il y a des ralentissements naturels de la machine. On sait qu'à la fin de l'année, les chances qu'on ait les mêmes patrons sont presque nulles. Même si le même parti reste, les choses vont changer. Puis avec la démission de M. Legault, c'est encore plus amplifié. Parce qu'avant la démission de M. Legault, les fonctionnaires pouvaient se dire « Ouais, les chances que M. Legault gagne sont minces ». Et là, ce n'est plus une question de savoir s'ils peuvent gagner ou pas. C'est une question de dire qu'il est clair que le premier ministre ne sera pas le même après l'élection d'octobre. Donc, les ordres, les consignes qu'on reçoit aujourd'hui risquent de changer en novembre prochain. Et 11 mois en politique, c'est une éternité et en même temps un claquement de doigts. C'est extrêmement rapide pour la machine, c'est extrêmement long pour tout ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale et dans la game politique. Mais moi, je pense qu'on est en train de vivre l'effet pervers. Parce que déjà un an avant, on commence à voir la machine qui ralentit. Parce que finalement, 9 mois avant l'élection, ça va être de plus en plus difficile. Puis c'est rien encore. Imaginez au mois de juin prochain. Au mois de juin prochain, il n'y a plus rien qui va se passer. On va être dans le maintien du gouvernement. Donc, tu as entièrement raison, Pascal. Mais à un moment donné, c'est aussi l'effet des décisions qu'on a prises. Parce qu'on voulait retirer entre les mains des premiers ministres cette capacité à déclencher des élections au moment de leur choix. On est tombé dans une situation où est-ce que tout est tellement imprévisible que les changements sont aussi prévisibles. Et là, ce qui fait que la machine, elle ne roule plus à la même vitesse. Et comme tu dis, on est en train de perdre le fait de travailler pour le monde, de travailler pour régler les problèmes. Monsieur Julien, il dit « Je vais attendre de voir au mois d'avril parce que je ne suis pas sûr que je vais sortir les études tout de suite. » Là, je me demande d'abord, les études sont-elles prêtes et que disent-elles? Mais ensuite, si tu attends, tu es en train de montrer aux gens que finalement, la machine, elle ne roule plus assez vite. On a vu aujourd'hui un projet de loi sur la santé qui a été développé. Espérons qu'il soit adopté de la bonne façon. Ça, je pense que ça va avancer assez rondement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers où est-ce que l'identité du chef et de la chef de la CAQ est extrêmement importante et l'identité du prochain premier ministre en novembre prochain est extrêmement importante aussi parce que les dossiers en gouvernement, c'est du long terme.
Et si on revient au chef ou à la chef de la CAQ, si Bernard Drinville n'a pas nommé laïcité et toutes les autres priorités de la CAQ, Victor, je te fais entendre cette minute de bonheur où Bernard Drinville s'est payé la tête de Christine Fréchette. On écoute.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, Mme Fréchette soit incapable de prendre une position en faveur du projet. C'est pas comme si le troisième lien était une surprise dans cette campagne. Ces tergiversations nuisent à la crédibilité du projet, nuisent à la crédibilité du gouvernement et nuisent à la crédibilité du parti. Comme premier ministre, il faut savoir prendre des décisions. Parce que, comme le veut l'expression, tout ce qui traîne se salit. Un chef de gouvernement doit savoir décider et être capable d'assumer ses décisions. C'est une question de leadership. Je dirais même, dans ce cas-ci, c'est un test de leadership. L'ambivalence et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoient pas un bon signal dans ce dossier, comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. L'indécision est la pire des décisions.
Crédibilité du parti. L'indécision est la pire des décisions. Comme premier ministre, il a beurré épais Bernard aujourd'hui.
Oui, mais il y a une chose que Bernard Drinville sait faire mieux que bien du monde à la CAQ, c'est de faire les nouvelles puis de nous donner les bonnes clips.
Oui, cette clip-là va suivre la campagne à la chefferie jusqu'au 12 avril.
Ça va suivre extrêmement longtemps. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que, dans le fond, Bernard Drinville, qui s'est dissocié à peu près de toutes les décisions de la CAQ depuis 4 ans, est en train de se chicaner avec Christine Fréchette sur le seul dossier duquel il ne se dissocie pas de son premier ministre. Et du côté de Mme Fréchette, on est dans un des rares dossiers où est-ce qu'elle semble se dissocier, c'est même pas encore clair. Moi, très honnêtement, je pense qu'en termes stratégiques, d'abord, on va s'entendre, là, c'est une campagne à la chefferie. Là. On ne gagne pas une campagne à la chefferie sur le troisième lien. C'est les membres de la CAQ qui vont décider. Maintenant, est-ce qu'on gagne une campagne à la chefferie sur le fait de ne pas garder certains acquis caquistes? Ça, par exemple, ça peut faire très mal à Mme Fréchette. Et c'est là où je vous avoue que je m'attends à ce que Mme Fréchette prenne une position sur le troisième lien plutôt positive, assez rapidement. Mais dans sa posture d'être la candidate économique, d'être une candidate de rigueur économique, je m'attends à ce qu'il y ait des bémols à cet appui-là. En disant, par exemple, il en faut un, mais il faut que le coût soit bien contrôlé ou il faut que le tracé soit confirmé. Je m'attends à avoir un « mais basé sur la rigueur et la responsabilité. Je pense que là-dessus, elle pourrait se démarquer tout en respectant le fait que les membres ne veulent certainement pas de dissociation. Pourquoi? Parce qu'il faut le rappeler, l'abandon du troisième lien aux vieux des caquistes, ça a été le début de la chute.
En terminant, Victor, j'aimerais t'amener sur un petit clin d'œil. T'sais, la CAQ, en ce moment, il y a plein de matelots qui ont quitté le bateau. Jonathan Julien, qui s'occupe du projet du troisième lien, a annoncé également qu'il quittait le bateau. On est en train de se livrer à une course à la chefferie qui est assez batailleuse. Là. T'sais, on se coltaille, littéralement, de Mme Fréchette puis M. Drinville. Qu'est-ce qui va rester de la CAQ par la suite? Puis est-ce qu'il va y rester un minimum de coopération puis de travail d'équipe, selon toi, avec tes yeux d'ancien analyste politique à l'interne dans un parti?
Ça va être le grand défi de la prochaine chef, qui que ce soit, si M. Drinville ou Mme Fréchette, de justement recoller les morceaux. Mais il y a une bénédiction dans ces départs-là aussi pour le prochain ou la prochaine chef. Là. Parce que vous savez, incarner le changement, lorsqu'on est dans le même parti, ça passe par changer les visages. Puis là, il y a des visages qui volontairement quittent. Ça fait des comtés à remplacer. Jonathan Julien, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Lionel Carman, Christian Dubé. C'est tous des gens qu'on a vus pendant les 8 dernières années. Et ces visages-là, on va pouvoir les changer. Et du côté de la prochaine chef, les remplacer par des visages crédibles. Donc, si cette personne-là est capable d'attirer des candidatures, elle va être capable de donner une image de changement. Ce qui est la priorité absolue de la prochaine chef de la CAQ. Parce que c'est ça leur grand défi, c'est de montrer changement. Puis le sondage nous a dit qu'il y avait cette capacité, par exemple, de Mme Fréchette à monter de 10 points. Moi, je pense que s'il y a un des deux qui incarne le changement, ben, ça ne va pas juste être 10 points. Le potentiel est grand pour ce parti-là. parce que les Québécois sont dans un dilemme pour la prochaine élection. Et la question économique est encore importante. Et Bernard Drinville, puis la question de la rigueur de l'État, par exemple, et des finances publiques, c'est un discours qui perce. Alors, je pense qu'il y a plein d'éléments ici qui nous disent une chose. Ne vous fiez pas sur les sondages de la semaine dernière parce que tout ça va bouger d'ici le mois d'avril prochain.
Chers auditeurs, chères auditrices de Boulevard 101 et de l'émission On en jase, retenez ça autant Antonine Niagarini que Victor Henriquez nous disent « La CAQ n'est pas mort ». Vous y croyez, non. Vous n'y croyez pas? 418-971-101, faites juste répondre « Oui ou non ». Oui, la CAQ n'est pas morte. Non, la CAQ est morte. Victor Henriquez, c'est toujours un bonheur et un plaisir de parler avec toi.
Merci pour l'invitation. À bientôt.
Good. Salut Victor, à bientôt.
Salut.
Après cette courte pause à Boulevard 102, on va parler d'un sujet très chaud, c'est-à-dire le maire Marchand qui fait réagir avec ses pistes cyclables qu'on déneige, ses fermetures de patinoires qu'on veut faire, ses poils à bois et également ses commentaires envers les commerçants après notre entrevue hier, et c'est disponible sur le blvd.fm, une entrevue exclusive avec Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. On parle de tout ça avec Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale, après cette courte pause à Boulevard 101.